Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui dans cette émission, nous allons recevoir Pascal Drévillon pour le spectacle, pour la captation numérique qui est produite par l'Espace Libre et qui s'appelle Gender Fokker. Et on demande, alors donc l'actrice performeuse et performeuse qui est là va nous inviter dans un solo sur la scène du théâtre Espace Libre à travers son expérience personnelle de la transidentité. Ça va être intéressant de discuter avec elle dans un instant. Après, nous avons ici notre chroniqueuse Poussadi Vani. Et Poussadi s'est dit, oh, des chroniques, j'en ai trop fait, je vais inviter quelqu'un. Et là, dans sa chronique, elle a invité quelqu'un qui s'appelle... Bonjour Poussadi d'abord.
Bonjour, bonjour.
Qui s'appelle Johan Roussy pour nous parler de la 8e île. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'être un lieu de recherche, de création, de production, de diffusion et de médiation culturelle en art multidisciplinaire. Waouh, ça aussi, ça va être intéressant. Restez avec nous. Donc, pour l'instant, nous partons avec une chanson toute récente qui vient de sortir. C'est Police qui chante Roxane. Voilà, et nous voici avec Pascal Drévillon. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Merci
alors,
beaucoup.
On va parler donc d'un spectacle qui a l'air extrêmement intéressant et passionnant. Donc on appelle ça une captation numérique et ça s'appelle Gender Fokker. Bon, alors qu'est-ce qui se passe pendant ce... Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Parce que ça fait, il y a eu, j'ai vu, 4 années de travail dessus.
Oui, absolument. On a eu la chance de visiter plusieurs festivals. En fait, on a commencé avec Feu Zedash Festival, Zonoma, dans l'est de la ville. Ensuite, Festival Phénoménal, qui est un petit peu plus expérimental. Oui. Puis le FTA en 2019, où là, on était dans notre apogée de création, de découverte avec un super public international. Avant d'aboutir en 2020, juste avant la pandémie, au Théâtre Espace Libre. Et Gender Fucker, c'est à l'intersection du théâtre et de la performance. C'est un spectacle qui s'est vraiment raffiné dans ces 4 et même depuis 5 et presque 6 dernières années à travailler là-dessus pour se transformer en ce film d'art que j'ai fait à partir d'une captation et même de 2 captations du FTA et de Espace Libre.
Alors, j'ai vu juste un petit bout, un petit extrait qu'on nous envoie. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, on peut se tutoyer.
Absolument.
Ensuite, on passage donc dans des transformations qui passent d'un genre à l'autre. Quand on dit un corps à la recherche de la neutralité, qu'est-ce que c'est la neutralité pour toi?
Ben, c'était en fait toute la question du début du spectacle. Qu'est-ce qui se passe avant qu'on soit capable d'apposer un genre sur une personne, avant que l'on connaisse, par exemple, le sexe d'un bébé, on assume déjà son genre et dès qu'on sait le genre, en fait, dès qu'on sait le sexe, on assume le genre et donc on assume peut-être tout un parcours, tout un futur qui attend cet enfant-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant ça? Puis après, physiquement, comment ça se représente? Comment est-ce qu'on peut effacer la masculinité ou la féminité d'un corps? Donc, c'est toute la question, en fait, de cette enveloppe-là. Et puis, dans le spectacle, ça se transmet par, justement, émerger de cette enveloppe-là, d'une grosse enveloppe de plastique. On commence le show très physiquement emballé dans un saran wrap de nombreuses couches qui doivent tomber pour dévoiler ce personnage qu'on va suivre pendant une heure top chrono.
Alors, c'est peut-être un peu simplesse ce que je vais dire, mais quand tu parles d'être enceinte et de pas savoir encore le sexe du bébé, j'avais oublié ce moment-là où l'on sait qu'on porte un être humain dans notre ventre, mais qu'on ne sait pas encore ce que ce sera. Mm-hmm. C'est vrai parce qu'on le sait qu'au bout de au moins 4 mois.
Mais oui, exact.
Et donc, il y a ces 4 mois avant, et effectivement, tu viens de me faire réaliser que c'était... Oui, il y avait cet espace-temps-là où on sait qu'on a un bébé, mais on ne sait pas qui il est.
Oui, mais l'avenir est grand ouvert dans ces moments-là.
Oui, c'est vrai que l'avenir est grand ouvert. Alors, on passe donc... alors là, on te voit dans le spectacle passer de la femme à l'homme.
En fait, c'est...
Enfin, en tout cas, sur le court extrait que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est un très court extrait, alors je ne vais pas m'avancer.
Oui,
j'ai pas vu le spectacle.
Un petit teaser pour juste nous donner assez le goût pour aller cliquer, voir le show. Mais non, en fait, c'est vraiment inspiré de mon parcours à moi. Donc, je suis née assignée garçon.
D'accord.
Et puis, j'ai réalisé à la puberté, en fait, que cette masculinité qui était en train de s'installer était pas moi du tout, un immense inconfort et vraiment la dysphorie de genre, qui est ce grand inconfort par rapport à mon corps en transformation.
Mmh.
Et puis, j'avais déjà 18 ans quand j'ai commencé à vraiment vivre, à être la femme que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment eu un parcours médical que j'ai essayé de faire le plus tôt possible, parce que j'avais ces grandes certitudes-là, jusqu'à l'école de théâtre où j'ai découvert que, oui, bien sûr, je suis une femme, c'est la personne que je suis, mais je suis tellement plus que ça, parce qu'on est toutes et tous tellement plus que notre genre. Donc, le show suit un peu ce même parcours où, au début, il y a un personnage peut-être non-genré qui s'approche de la masculinité, qui tombe dans une masculinité toxique, avant d'après se permettre de toucher au symbole féminin, de se queeriser, de se transiser et de se transformer en cette femme pour aller au bout de la féminité. Qu'est-ce qu'il y a quand on a usé de tous les symboles, sous le maquillage, sous les talons, sous ces contraintes qu'on peut peut-être imposer pour une femme « parfaite », en guillemets, retour, je vous briserai pas le punch à la fin, mais on a une petite fin tranquille qui se veut absolument pas moralisatrice, mais peut-être juste un retour à la simplicité.
Oui, parce que c'est vrai qu'enlever une tenue dans laquelle on se sent féminine, on se sent bien, enlever le maquillage qui va autour, il faut qu'il reste beaucoup de choses à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qui on est, nos valeurs,
Mais oui.
Nos échanges, nos idées, tout ça, ça compte. Ça compte autrement
Oui.
plus que l'apparence qu'on peut se donner. Et je crois même sincèrement que c'est à travers ça qu'on charme les gens, plus qu'à
Ben
travers ce
oui,
qu'on
laisser tomber
porte.
le masque un peu, mais oui.
Donc, c'est très intéressant. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours été, puisque c'est de ton parcours dont on parle aussi là-dedans,
Mais
est-ce
oui.
que ton parcours a été facilité? Est-ce que tu as été soutenu dans ton parcours?
Ben oui, ça c'est vraiment absolument la clé pour tout parcours d'une
Oui.
personne qui pourrait être considérée atypique, peu importe ce que ça peut vouloir dire. Oui, j'ai été vraiment baignée d'amour infini, inconditionnel par une maman et une grand-maman qui m'ont vraiment accompagnée dans tout ça, que j'ai évidemment grandement chamboulée, là. On a beau être des
Oui.
femmes fortes et libérales dans la famille, je pense pas que personne n'était prêt
Mais
à vivre des grands bouleversements comme ça.
ouais, c'est
Mais
toujours
cela
quelque chose qu'on
dit,
connaît pas assez, donc plus on
ben
s'en
c'est
approche et
ça,
qu'on
c'est le
l'accompagne,
manque,
c'est la
ben ouais.
compréhension de tout ça, on apprend
Le manque
l'apprentissage des deux
d'information, ben
côtés.
oui.
Ouais.
Ouais.
Mais
Donc, il faut aller chercher toutes ces infos-là. Puis, heureusement, j'ai toujours été, de par ma personnalité artistique,
oui.
déjà dans les extrêmes, déjà une personne, ma mère m'a toujours appelé un feu d'artifice. Donc, je pense que quand on réussit à déjà accepter cette portion de nous-mêmes, oui, je
Oui.
suis bon, passionné, etc., ben on finit par s'entourer de gens qui nous ressemblent, donc qui ont peut-être moins de chances d'être surpris par ces choix qu'on peut faire après.
C'est vrai. Alors, Pascal, on va faire une pause musicale et puis on revient avec toi tout de suite après.
À
D'accord?
bientôt.
Alors, Petit K nous chante juste pour que ça dure.
Tu as eu ce regard hagard, indifférent, mais qui, pour ma part, fut la magie d'un instant. Puis tu as eu ces mots si courts, si communs, qui ont couru sur ma peau à m'en faire trembler les mains. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a suivi. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire, sans pleurs et tards, en instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure, on marchera. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire, sans pleurs et tards, en instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure, on marchera, ouais. Juste pour que ça dure. Geste si doux, si docile, ébouriffé ta mèche, écarquillé tes cils. Et c'était l'évidence dans ces moments futiles, sans discours ni confidence, on dansait sur le même fil. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire, en pleurs et tards, en instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire, sans pleurs et tards, en instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure, on marchera, ouais. Juste pour que ça dure. Juste pour que ça dure. Ce n'était pas grandiose, mais ça m'a suffi. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire, sans pleurs, c'est tard, sans instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure, on marchera. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire, sans pleurs, c'est tard, sans instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure, on marchera, ouais. Juste pour que ça dure. Juste pour que ça dure.
Alors, nous revoici avec Pascal Devrion. Alors, Pascal, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu plus de ce spectacle, du processus, comment ça a été créé. Mais juste avant, il y a Poussadi, qui est notre chroniqueuse, qui est avec nous dans le studio, et elle a envie de te poser une question.
Bonjour, Pascal.
Bonjour, quelle douce chanson ensoleillée.
Ah, parfait. Non, mais on entend ta voix et tout. Je sens tellement d'amour, tellement de tendresse dans la façon dont tu expliques ton parcours. Ça, je trouve ça vraiment touchant.
Puis, merci, c'est gentil.
Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas parce qu'on aurait pu, tu aurais pu rencontrer beaucoup d'écueils dans ta vie puis avoir un peu d'amertume aussi.
Je pense qu'elle a dû en rencontrer quand même.
Mais je sens comme...
Ah oui, mais j'ai plus 20 ans. Hein.
Non, c'est ça, mais... Ah oh, non, mais c'est vraiment inspirant. Et puis toi, pour des jeunes, qu'est-ce que tu leur donnerais comme message, des jeunes qui se cherchent encore, là? Moi, j'en ai 5, puis je sens qu'il y en a quelques-uns là-dedans, là, qui essayent plein de choses aussi, mais...
Je pense que la clé, c'est toujours l'amour. Moi, je sais qu'une des choses que ma mère a dites à certains parents qui peut-être comprenaient moins, même des parents de mes meilleurs amis, c'est on ne peut que les aimer. Et c'est ce qu'un parent doit faire avec son enfant, c'est d'abord mettre l'amour avant tout. L'amour, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est être là, c'est partager un silence quand il y a de l'incompréhension. Puis par rapport aux jeunes en tant que tels, je pense que personne n'a le goût de se faire rappeler à quel point ils sont privilégiés, mais c'est quand même important peut-être de le dire qu'à l'époque où j'ai vécu tout ça, moi, Internet n'était pas ce qu'il était. Et trouver des informations, c'était pas facile. Mais je pense que la liberté, avoir une liberté de base pour peut-être juste déjà exprimer ses désirs, voir comment ça se reflète sur juste peut-être pour moi ça a été un petit bijou ou un petit chandail, un morceau de quelque chose, une coupe de cheveux, ça peut être vraiment un tout petit truc qui fait qu'on peut commencer à s'affirmer ou en tout cas faire des tentatives, essayer des choses, essai-erreur, là, tu sais.
Ah, mais c'est vraiment bien. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ça fait plaisir.
Alors, revenons un petit peu à la création. On parlait tout à l'heure, on a parlé très vite que bon, ça a duré 4 ans. Comment ça se monte un projet comme ça?
Aïe, 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 ça a été quelque chose. Ben, je pense que d'abord, ça prend des bons alliés autour de soi. Fait que j'ai quand même su réunir des gens que j'avais rencontrés à travers l'école de théâtre, notamment. Donc, une amie qui était dans ma cohorte, qui est devenue ma régisseuse de plateau, qui est Andréane, qu'on voit dans le teaser, me filmer, qui m'apporte mes accessoires, qui est vraiment Andréane Sanson, qui est d'ailleurs une féministe queer aussi intense, sinon plus que moi. Mais ça a vraiment été un vis-à-vis très important dans la création du spectacle. Puis après ça, Geoffrey Gacquer, qui est un bon ami aussi, qui a fait la mise en scène du spectacle, qui est également directeur artistique d'Espace Libre. Voilà. Donc, c'est trouver les alliés importants. Puis aussi, chacune qui a ses spécialités. Donc, on sait qui va faire la lumière, on sait qui va s'occuper de telle chose. Puis après, vraiment, avoir la patience infinie d'envoyer des demandes de subvention à tous les conseils artistiques. Donc, merci au Conseil des arts et lettres du Québec, au Conseil des arts de Montréal, au Conseil des arts du Canada. Et après, quand on a la force du financement privé, c'est sûr que ça aide aussi. Moi, j'avais juste pas le temps parce que j'ai déjà cumulé trop de chapeaux sur ce projet. Mais je pense qu'aussi le point de départ intéressant qui vaut peut-être la peine d'être mentionné, c'est qu'avant que ce soit un spectacle, c'était des photoshoots que j'ai fait depuis 2013-2014 avec des amis photographes. Donc, essayer de créer ces archétypes-là et après, je les ai mis en scène, en fait. Voilà.
Ah, d'accord. Alors, justement, parce qu'on parlait... il y a la communauté LGBTQ2IA+. Donc, quelles sont leurs places aujourd'hui dans le monde du spectacle, dans le milieu artistique? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça s'ouvre plus? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des... Comment ça se passe?
Je pense que dans tous les systèmes artistiques que je connais, donc si je pense France, Canada, États-Unis, on est beaucoup dans des systèmes 2 vitesses. Donc on a le mainstream qui fait son possible, qui, grâce à certains créatifs, est ouvert un peu à coup de crowbar pour vraiment élargir le plus fort possible.
Oui.
Mais sinon, en dehors du mainstream, je pense qu'on a des scènes indépendantes et underground extrêmement fortes, extrêmement diversifiées. Moi, c'est, je veux dire, quand on a du talent, quand on on a quelque chose à dire, quand on veut monter un show, il y a toujours moyen de le faire. Après, il faut prendre son temps de le faire si on veut espérer passer d'une zone à l'autre. Donc, de quelque part dans le souterrain et l'indépendant pour arriver avec plus de visibilité. Mais ça prend de la patience, de la passion. Puis, je pense que dans le mainstream, ça s'ouvre tranquillement, mais ça se fait pas tout seul. Les choses ne changent pas. Les gens changent les choses. Donc, je fais mon possible.
Il faut bouger. Il faut bouger pour faire changer les choses. Puis là, que ce soit dans n'importe quelle sphère, j'ai envie de dire, c'est pas on viendra pas taper à ta porte pour te dire attends, je vais aller t'aider. Non, faut se bouger. Faut faire la moitié du chemin, on va dire.
Oui, exactement.
Pour qu'on nous envoie l'autre moitié du chemin devant nous. Encore quand on la voit. Ça, c'est aussi, c'est aussi une autre paire de manches.
Des fois, c'est mystérieux.
Oui, c'est ça. Ça mériterait une autre grande discussion. On n'aura pas le temps là-dessus. Mais juste avant qu'on termine l'entrevue, toi, tu t'es rendu compte quand même, ton œil, depuis que tu as commencé, tu as fait du théâtre, etc., tu te rends compte d'une ouverture un petit peu plus importante ou tu trouves que ça n'a pas vraiment bougé?
Non, je pense que ça bouge, certainement, et ça bouge grâce aux personnes qui font juste déjà être là, faire acte de présence et dire « voici mon art, voici mon travail ». Puis je pense que ça ouvre des horizons. Et moi, je suis toujours, je devrais pas dire toujours parce que j'ai passé énormément d'années dans la noirceur, mais je pense que maintenant, dans ma trentaine, je ne suis que lumière et espoir pour l'avenir. Et quand je regarde les jeunes aujourd'hui, vraiment les jeunes de 14, 15, 16 ans qui comprennent la queerness, qui comprennent ce que c'est que de mettre de la création et de l'art dans sa vie, ben c'est sûr que j'ai espoir.
D'accord. Alors, comme nous sommes à la fin, alors donc ça va être accessible. Cette captation numérique qui est produite par Espace Libre, ça va être accessible dès le 21 février prochain.
Exactement, donc, 21 février bientôt, prochain, là. En après-midi, en soirée, donc dans quelques jours à peine, l'œuvre sera disponible en français et en anglais, sous-titré, important de mentionner, pour accessibilité.
C'est bien, c'est vraiment super. Un petit mot de la fin, Pascal, pour inciter tout le monde, à part la belle entrevue qu'on vient de faire ensemble, une petite phrase d'incitation pour celles et ceux qui nous écoutent.
Mais peut-être une dernière chose, allez trouver votre inspiration dans la nature, que ce soit dans l'astronomie ou dans les arbres. Il y a tellement de diversité, de magie, de toutes sortes de formes et de couleurs, autant dans le vide intersidéral que dans la nature de nos forêts québécoises. Il faut aller s'inspirer de la nature, absolument.
Voilà. Belle phrase de fin, Poussadie, n'est-ce pas?
Oui, inspirant.
Donc, merci beaucoup. Maintenant, on croise les doigts.
Absolument, oui. Puis je vous souhaite un bon visir. Hein.
On te souhaite le meilleur aussi pour toute la suite.
Merci beaucoup.
C'est bien parti pour ça, en tout cas.
Oui,
vraiment.
Ça a l'air. Bravo pour ça. Merci, Pascal.
Merci.
Au revoir.
Bye bye.
Alors, Poussadi, maintenant, on va partir en musique.
Oh, que oui.
Et nous allons écouter Hervé, qui nous chante « La peur des mots ». Des fois, ça fait peur de dire les choses. Ça fait du bien aussi. Nicolas, bravo, tu es le meilleur. T'as vu ? Ça, c'est un mot.
Ouais.
Allez, vas-y.
tu mens.
Voilà, donc restez avec nous parce que dans la deuxième partie de l'émission, la chronique de Poussadi, eh bien là, va nous être présentée Joanne Roussy pour la Qu'est-ce que c'est que la 8e île ? Vous voulez en savoir plus ? Bah restez avec nous, écoutez la musique et puis on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Faramineux avec Arlette Farah.
Parfois on se met des coups de fatigue, des coups de blues au bout des doigts. D'abord c'est simple, puis ça se complique, comme des tas d'histoires qui n'avancent pas. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde de fou, j'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars et moi je reste ici. Toi tu pars, moi je reste ici, ici, ici. Quand on prend trop de faux départs, on ne voit pas la ligne arriver. Trop tôt, c'est déjà trop tard. Et on finit disqualifié. Si rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde fou, j'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu pars, moi je reste ici. Toi tu pars, je reste ici, ici, ici. Toi tu pars, moi je reste ici. Toi tu pars, moi je reste ici, 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 ici.
Alors, on vient d'entendre Céphase qui nous chantait « Toi, tu pars ». Mais par contre, celle qui vient avec nous, c'est Joanne Roussy. Bonjour, Joanne.
Bonjour.
Allô,
bonjour,
Joanne.
Et bienvenue.
Bonjour.
Et merci à Poussadi de vous avoir invité, parce que c'est un beau sujet, en tout cas, que je ne connaissais pas, la 8e île. Donc, qu'est-ce que ça représente, tout ça?
Ah, oh, ben la 8e île, en fait, on pourrait dire que c'est comme aller visiter chez un sculpteur ou un artiste, puis habiter chez l'artiste, si on veut.
Oh là là, bonheur le bonheur!
Ben oui, ça peut, parce que dans le fond, l'idée, c'est comme je suis loin des grands centres-villes, puis je suis très, très, très attachée à mon territoire, j'avais besoin de trouver une façon de pouvoir recevoir des gens, mais aussi de géolocaliser, si on veut, ma pratique comme telle. Et puis, comme je suis née à Sept-Îles, puis que, bon, je suis un peu une enfant de... Bon, je suis une enfant des minières, si on veut, de la colonisation, de toutes sortes de réalités là, qu'on vit quand même, puis assez fort. Mais du côté, bon, peut-être pas toujours l'enfant gentil. Des fois, c'est l'enfant en défiance.
Oui.
Mais c'est ça. Donc, j'ai voulu comme pouvoir tout ramasser ça sous le même toit. Là. J'avais été dans les années 90 à Saint-Jean-Port-Joli faire de la résidence d'artiste. Puis c'est vraiment là que j'ai pris le goût. Là. Puis à partir de ce moment-là, bien, j'ai essayé de trouver vraiment la meilleure situation possible pour pouvoir effectuer ça. Puis bon, j'avais une amie qui est en fait une famille amie qui possède des bâtiments là, dans une ancienne base d'armée. Puis bon, j'ai pu les occuper. Puis voilà, ça va faire à peu près... ça fait 13 ans, ça va faire... en 2023, ça va faire
ah oui.
15 ans, voilà.
Ah oui?
Oui, déjà.
Alors, Poussadi, raconte-nous, toi, comment tu as rencontré Joanne?
Ben, je l'ai rencontrée chez notre amie Joséphine. Et puis, ça a été une super belle rencontre brève, mais mon Dieu... J'ai dit,
intense.
Cette fille-là est extraordinaire. Et puis la 8e île, j'avais jamais entendu parler de cette chose.
Moi non plus, tu me l'as
appris. Mais je trouvais ça tellement beau, 8e île. T'as juste le goût d'y aller, là. Et puis, Joanne, c'est vraiment toute une artiste extraordinaire, tout ce qu'elle fait, puis toutes les démarches. Et puis, elle est sur plein de projets. Puis, mon Dieu, elle est un peu je sais pas, Joanne, hyperactive ou hyper créative, je dirais.
Multi-artiste, en tout cas.
Hyperactive, peut-être. Je prends des pilules pour ça. En
fait. Ah, ben, j'aurais dit hyper créative aussi, là.
Oui, en fait, ça me prenait un endroit, je pense, pour soutenir mon trouble, comment je pourrais dire, mon
trop-plein.
Mon trop-plein. Oui, c'est vrai. C'est ça, dans le fond, les TDAH, là.
Ah oui, mais dans la créativité, c'est plutôt important, enfin, c'est plutôt intense.
Ah oui, c'est intense. Puis en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec des gros outils. J'aime beaucoup travailler avec...
C'est-à-dire, c'est quoi un gros outil pour toi?
Ah, ça peut être, ou des outils dangereux, là. Ça pourrait être... j'aime bien travailler avec la scie à chaîne, avec le banc de scie. J'ai le métier d'ébéniste aussi dans les mains, ça fait que... Ça aide beaucoup. J'aime travailler avec la soudure. J'aime beaucoup travailler des grandes formes. Travailler. Bon, la dernière sculpture, c'est un panache de 14 pieds, quand même, puis en métal.
Wow!
Et puis, c'est installé sur une œuvre publique maintenant, là, qui est située exactement sur le territoire des Innus, où est-ce que moi, j'ai passé mon enfance, en fait. Puis c'était une façon là, pour moi de reconnaître l'esprit des lieux. J'ai appelé ça l'esprit des lieux, justement, pour dire que moi, je reconnais que je suis née, j'ai grandi carrément dans une communauté autochtone, comme à côté, là, mais à 20 pieds peut-être,
ah oui.
de la communauté. Là. Ce qui fait que je suis allée à l'école avec les Innus.
Ah oui.
Ça, donc, je peux pas dire... Je suis pas une Innu, je suis pas. Mais sauf que je.
Mais en même temps.
J'étais consciente, très jeune de cette
oui,
réalité-là.
Voilà. Ça permet mm-hmm. d'être imprégnée par la culture et puis au moins de les connaître.
Mais tellement.
C'est important.
Tellement, puis d'entendre. Il y a de la musique que j'entends depuis que je suis toute petite, parce qu'il y avait il y avait une troupe qui s'appelle Carcajou
ce
moment-là.
Oui.
Vous vous rappelez de Carcajou?
Moi, je connais leur nom, oui. Oui.
Ah, hey, Cyril Fontaine, il avait composé quelques chansons, puis c'est des chansons qui ne me quittent pas, là, tu sais, c'est parce que je pratiquais sur le terrain de l'église, pas loin de chez nous, puis bon, ben, pendant des étés, on entendait, puis on les voyait se pratiquer, c'était fantastique. Il y avait la radio Socan qui jouait partout, puis on entendait, dès les années 70, de la musique de Philip McKenzie, là, qui jouait, c'était le premier, nous, à avoir en disqué.
Oui.
Alors, voilà. C'était une réalité sonore, en tout cas, pour moi.
Est-ce que le fait d'avoir justement vécu si près de cette culture, en même temps l'endroit où tu vivais, est-ce que tout ça, ça a inspiré ta créativité?
Ben, un peu comme je disais tout à l'heure, tu sais, en étant née à cette île, blanche, ben, québécoise, en fait, je crois que être née à cette île dans cette situation-là, ça fait qu'aujourd'hui, je parle de décolonisation, je parle de réunir de faire le pont entre les peuples.
Ah oui.
C'est un peu ça, la 8e île, c'est de réunir des gens qui, en temps ordinaire, peut-être se seraient pas parlé, mais au-dessus d'un travail.
Oui.
Pour travailler ensemble, parce que j'ai remarqué vraiment que quand on s'agite les mains ensemble, hein, la main et le langage. Donc pour moi, c'est très, très c'est presque, comment je pourrais dire, c'est presque thérapeutique, en fait.
Ça
de
fait
pouvoir
du...
s'agiter au-dessus d'un travail ensemble, oui.
Ça fait du bien, mais il faut aussi trouver des gens qui osent faire une participation, qui sont assez sortis du personnel pour partager.
Oui, mais pour tout le monde, hein? Pour tout le monde, parce que c'est pas tous les artistes qui sont habitués de partager le travail. Beaucoup d'artistes travaillent seuls.
Oui, c'est vrai.
Je reçois pas seulement des sculpteurs, je reçois beaucoup de littéraires, j'ai reçu des poètes, je reçois des gens en art vivant, parce que j'aime beaucoup recevoir des musiciens. Puis pourtant, là, je sais pas jouer de la musique. Je me suis équipée quand même. J'ai pu réussir à ramasser, à grappiller des micros, toutes sortes de choses pour que un band puisse arriver, s'installer, puis pratiquer ou faire même un petit spectacle intime, là. Puis j'ai fait des spectacles sur mon banti qui a agi en tant que scène, carrément. Les gens étaient partout dans l'atelier. La sonorité dans l'atelier est excellente parce que c'est du bois partout. Puis l'ambiance est particulière parce que c'est dans une ancienne base d'armée qui date de la guerre froide.
Ah oui.
Donc c'est
immense quand même.
Ben, l'atelier, on dirait que... Ben, je parle en pied, désolé, là, mais la façade de l'atelier est à peu près 200 pieds, ce qui fait qu'il y a à peu près la moitié. C'était comme... l'armée, ça réunit des gens en général qu'on ne réunirait pas. Donc, dans cette église-là, il y a protestants d'un côté puis catholiques de l'autre.
Ah, dis donc!
Donc, moi, mon atelier est installé du côté protestant. Et puis, le côté catholique va devenir bientôt une salle multi là, pour justement les arts vivants.
C'est fantastique.
C'est dans les cartons.
On va continuer à parler avec toi. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après ça. D'accord?
D'accord.
À tout à l'heure. Donc on part avec Rougemont qui nous chante Savoure le rouge.
Parle-moi de ton humidité. Et entre les mains, les doigts mouillés, l'étoile inondée, tu me griffes la peau sur le tableau. Et un jour, je te peindrai entière sur tout ton corps. Je te peindrai dans l'or, l'ultra chair, mon huile et ma déesse. Retourne-toi, retourne dans le rouge.
Bien, nous voici de retour avec Joanne Roussy. Alors, Joanne, Poussadi a des questions pour toi.
Ah,
un petit peu son tour maintenant.
J'avais le goût de savoir, Joanne, comment les gens s'inscrivent pour aller faire des résidences? Comment tu les choisis?
En fait, c'est sur invitation. Comme je ne suis pas subventionnée, je me suis permis ce petit luxe de fouiller à ma façon, d'aller chercher des gens puis d'aller par projet. Ce qui fait qu'il n'y a pas de saison régulière. C'est toujours à peu près entre la fête du travail, le 1er mai, là, puis l'Halloween, si tu veux, là, que je reçois. Puis là, depuis 2 ans, depuis l'année dernière, je reçois des gens qui sont rattachés à un projet en particulier qui s'appelle les Utopies nordiques, dans lequel Joséphine, notre amie commune, joue. Participe. Et puis, d'ailleurs, on part là, dans 2 semaines, là, dans 1 semaine, en fait, on part pour cette île pour faire 2 tournages là, dans la neige.
Wow.
Avec les Utopies nordiques.
Ah, ben alors, moi, mon plan, il est fichu, là. Moi qui voulais m'évader de mes enfants, bon, ça marche pas, là. C'est correct.
Ah, ben écoute, dans la voiture, je pars le 22.
Non, mais est-ce que tu veux nous parler des Utopies nordiques? Ça, c'est...
Oui, c'est ce que j'allais dire, oui.
Ton voyage avec les enfants, ben ça, on en reparlera. Mais oui, il y a des gens qui m'envoient des dossiers quand même. Il y a des gens qui m'envoient des dossiers puis que je trouve qu'ils sont vraiment fort intéressants.
Mm-hmm.
Ça dépend toujours. Il y a des gens que je peux pas prendre leur dossier. Des fois, c'est simplement parce que il y a trop de projets pendant la période qu'ils ont besoin de venir. Mais j'essaie toujours là, de faire quand même une place là, pour les gens. Là. C'est rare qu'il y ait des dossiers qui sont vraiment refusés.
Bon, mais c'est bien. Est-ce que les Utopies nordiques, tu peux nous en glisser un mot?
Oui, je pourrais.
Oui.
On voudrait que ça sorte là, pour la fin 2023.
Mm.
C'est un film, dans le fond, j'aborde ça un peu comme une sculpture, un peu comme des espaces d'utopie là, à la Michel Foucault. Là, parce que dans le fond, la 8e île, pour moi, c'en est une utopie dans laquelle je travaille, ou est-ce que j'imagine qu'il y a un monde qui va entrer là-dedans. Donc, pour moi, les utopies nordiques, c'est que, bon, c'est de faire des ponts, justement. Je parle beaucoup des ponts avec les Premières Nations. Je me positionne, moi, en tant que coloniale, là, si on veut, là-dedans.
Mm-hmm.
Mais c'est un film d'art. Donc, je me suis déjà imposée comme une espèce de méthodologie au départ en disant il va avoir un cœur, il va avoir des présentations d'artistes de tout acabit. Ces artistes-là vont présenter une œuvre qu'on va filmer, mais là-dedans, il y a, comme dans la tragédie grecque, il y a un cœur.
Mm-hmm.
Tu sais, les cœurs en tragédie, dans le théâtre grec, pouvaient dire ce qu'ils voulaient, pouvaient chanter ce qu'ils voulaient, pouvaient même parler de politique ou comme ils voulaient.
Et c'est vrai.
Donc, j'ai appris cette idée-là, puis je me suis dit, qui pourrait être le cœur? Ben, c'est le cœur du territoire. Où moi j'habite, parce que où j'habite à Moisy, c'était la base d'armée, elle a été fabriquée en expropriant les Inuits qui étaient là. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai 2 amis qui sont nés sur la pointe de Moisy, à peu près à 100 mètres de l'atelier. Tu sais. Mm-hmm. Puis, elles ont été, bon, vers 5, 6, 7 ans, là, elles ont été déménagées pour Malioutenam pour pouvoir aller au pensionnat. Mm. Donc, on retrace ces choses-là, mais avec leurs paroles à elles. Fait que parfois, elles parlent en innu, parfois, elles parlent en français, puis il y a d'autres gens qui se rajoutent au cœur à mesure des œuvres, que des œuvres sont présentées. Et puis, ça va être dans toute la traduction de ce que le cœur va avoir dit très librement, que va être formé le narratif du film.
Mm-hmm.
Puis après ça, c'est là qu'on va faire le puzzle de toutes les images qu'on a tournées avec les artistes qui se rencontrent là. Puis, donc, c'est ça. Donc, l'hiver, cet hiver, dans une semaine, comme je disais tout à l'heure,
oui,
ça va être sur le bâton à message, puis sur la langue des glaces.
Oh.
Alors, il y a toute une recherche avec Joséphine que Joséphine a faite et va faire encore avec des aînés de Pakwashipi.
Mm-hmm,
mm-hmm. C'est ça. Donc, il y a vraiment un travail. Au début, tu sais, j'ai amené beaucoup comme des Québécois, des néo-Québécois, un peu comme les colons qui arrivent. Tout. Là, on fait notre exercice, tout ça, tu sais, devant le cœur qui est là puis qui sait pas trop. Mais en même temps, on faisait des beaux shows, comme un show de cirque avec des lumières.
Oui.
Vraiment, nos shows de boucan, là, finalement. Mais le souhait, c'était que ça renverse un peu. Puis que dans l'autre partie, qui est le 2022, que ce soit plutôt des Inuits qui décident qu'est-ce qu'il va avoir comme prochaine scène. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joséphine. Parce que quand on relatait certaines entrevues avec Anne-Marie Saint-Onge, Anne-Marie André,
oui,
qui parlait de divers petits points, tu sais, de sa vie au pensionnat. Il y a deux choses que Joséphine avait retenues, c'était d'aller patiner sur le lac, pas patiner, mais courir sur le lac qui était en bas là, de Malioutenam, qui s'appelle Kakashanis. Et puis, elle voulait aller courir quand elle était petite sur ce lac-là, mais elle ne pouvait pas parce que, bon, elle était en retenue, au pensionnat, blablabla. Puis, c'est ça. Donc, ça a donné l'idée à Joséphine de faire la passation sur le bâton à message. Habituellement, c'est comme un bâton que tu plantes dans le milieu d'un lac avec un autre en oblique. Dépendant de comment est disposé le bâton, bien, il y a un message pour les personnes qui passent après ces personnes-là.
Ah, c'est beau.
Un peu comme le principe du Nootchouk, là, mais pour les Inuits,
il faut juste signaler pour les personnes qui nous écoutent que Joséphine dont on parle, c'est la magnifique et talentueuse Joséphine Bacon. Voilà.
Oui, puis donc c'est ça. Donc elle est en train de reprendre, si on veut, les rênes du film. Puis aussi, quand on a parlé quand Anne-Marie pose la question, mais quel aîné, tu sais, maintenant que les aînés sont en train de mourir, comment on va savoir la langue des glaces?
Ah oui.
Donc, ça aussi, ça a frappé l'imaginaire à Joséphine Bacon, qui, elle, a reçu énormément de récits de la part des personnes âgées. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est deux tournages qu'on va faire dans la neige, sur la glace, avec des éclairages, différentes choses, avec Lucie Badio, l'éclairagiste en danse, là, et puis qui participe aussi. Ça fait qu'il y a comme une douzaine de personnes, plus le cœur, là, ça fait une bonne vingtaine de personnes qui participent. Là,
autour de ce beau projet-là, oui.
Ça va être beau.
Oui, oui.
C'est vrai que...
On a été boursiers du Conseil des arts du Canada pour ça, puis en tout cas, c'est...
Mais c'est un beau leg aussi pour la communauté, ce que tu fais.
Oui, parce que dans le fond, il y a une reconnaissance...
Oui.
Il y a une reconnaissance territoriale là-dedans.
Mais je l'entends depuis le début.
De aussi.
Oui. Depuis le début, dans toi, c'est ça que la première chose, c'est cette reconnaissance
du
territoire, de l'autre. Voilà.
C'est ce qui va servir pour l'apprentissage de ceux qui arrivent, outre les livres de Joséphine et tout ce qu'elle fait, puis Joséphine Bacon, ce que tu fais toi. Voilà, il y a plein de choses qui vont rester en note, en mémoire. Et l'important, c'est ça, c'est la mémoire. Malheureusement, Joanne, nous arrivons à la fin de l'entrevue.
Ah,
ça tombe vite, hein,
quand même.
Ah, bah oui, hein. C'est moi aussi.
Hein, comme on dit.
Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été là et de nous avoir parlé. On était avec Joanne Roussy et toi. Poussadi, je te remercie beaucoup de l'avoir trouvé et de nous l'avoir amené. Voilà.
Puis fais attention à toi sur la route parce qu'elle était en route. Hein.
Ah, d'accord. Alors, oui.
J'arrive de Rouyn-Noranda avec la compagnie Cinédance avec
Caroline
de Cébus, oui.
Ah, bah alors, bonne route et fais attention à toi. Voilà.
À bientôt.
À bientôt, merci. Alors là, on va partir en musique avec Tire le Coyote, oh, qui nous chante Chanson d'eau douce.
Quand le vent s'arrêtera juste en criant statue, quand novembre passera à notre insu, vas-tu continuer à contourner les saisons, mon ami? Fera sa demande de divorce, quand l'amour enlèvera sa camisole de force, qui va buriner le cœur de ta charpente, mon ami. Quand la connerie décidera de s'acheter une vie, est-ce que les mots suffiront à défaire les nœuds, mon ami? Quand nous aurons finalement appris à mourir, quand le temps aura enfin atteint l'avenir qui remplira les coffres de ta mémoire, mon ami.
Alors voilà, on est à la fin de cette émission, Poussadi, qui est passée, Joanne a raison, très très vite. Alors merci encore à Joanne Roussy, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait, et puis ça vaut le détour et le voyage quand elle ouvrira ses invitations, j'en suis. Voilà, donc merci à toi Poussadi d'avoir été là.
Merci
et puis
à toi, Arlette.
N'oublions pas Pascal Drevillon, et puis bien sûr pour la pièce donc, qui va se faire au Théâtre Espace Libre, enfin sur la plateforme de vidéo de Théâtre Espace Libre. Merci Nicolas Wartmann pour la musique, pour la technique et pour ta présence. Au revoir à toutes et tous, merci d'avoir été avec nous. Puis moi je vous donne rendez-vous demain pour le dernier jour de la semaine.
Au revoir.